Après ni noir ni blanc, vous écoutez ni Trudeau ni Landry avec Myriam Segal au 93.
J'ai failli croire qu'il m'avait remplacé déjà.
Non, t'as reçu un mail il y a deux minutes, mettons. Myriam, tu rentres pas tantôt.
Il est midi tapant avec Anne-Sophie Jobin, François Jacques.
Bonjour.
On vous tient compagnie jusqu'à 15 heures. Et l'histoire macabre que vous avez manquée il y a quelques instants, Anne-Sophie va vous donner les détails tout à l'heure parce que c'est vraiment très spécial.
Ouais, ça fait peur.
Entre-temps, je vais quand même vous dire que du côté de la météo, c'est une belle journée quand même aujourd'hui. C'est une pas belle journée demain. En fait, on doit avoir de la pluie en fin de journée aujourd'hui. Mm. Demain, c'est comme des averses pas mal tout le temps. Là, averses, c'est ça en après-midi. Après ça, ça se dégage. Et chose inattendue en début de semaine. En début de semaine, là, ils nous prévoyaient de la pluie samedi, dimanche. Une chance que je vous l'avais pas dit.
Hey, merci de t'être gardé une gêne là-dessus, Myriam. Merci.
Parce que samedi, c'est une alternance de soleil et nuages. Mais grosso modo, il va faire beau 22 degrés. Dimanche, c'est du soleil, 24 degrés. Puis lundi, pour les chanceux qui vont étirer les vacances de la construction, c'est encore ensoleillé, 24 degrés. Autrement dit, c'est une fichue de belle fin de semaine qui commence.
Ouais, on va en profiter.
Enfin, qui va commencer demain à 3 heures, pour nous autres.
Mais parle pour toi, Anne-Sophie et moi, on est en onde en fin de semaine aussi. Nous autres,
on fait pas si pitié, on finit à 10 heures.
J'ai de nous attirer un petit peu de sympathie.
On fait pitié. Non, mais pour vrai, en fin de semaine, ça va être une belle fin de semaine de soleil. J'ai hâte.
Tout au long de l'émission, vous pouvez nous jaser. 25-226, c'est le meilleur des moyens. Donc, vous nous envoyez un petit texto. On lit tous les textos. On les lit pas tout en ondes, mais je vous jure qu'on lit tous les textos et on est bien ouvert à vos commentaires, même si vous payez pas le cognac. Gnac, 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 gnac.
Mais on est plus ouvert si vous le payez. Juste comme ça. Les offrandes, moi, ça me rend très réceptif.
Non, on commence pas les pots de vin, là. Garde. OK, Anne-Sophie, c'est quoi cette histoire macabre dont on a failli entendre parler il y a quelques secondes?
Ouais, c'est une femme morte confondue avec un mannequin et mise aux ordures à Sherbrooke. On n'a pas encore énormément de détails, mais je vous dis ce qu'on sait pour le moment, là. C'est un feu qui aurait eu lieu dans une entreprise à Sherbrooke, l'usine AMF, une affaire de boulangerie. On ne connaît pas trop ici. Et le corps a été retrouvé, un corps brûlé d'une femme qui a été confondue avec le corps d'un mannequin dans la bâtisse, OK?
C'est une entreprise où il serait normal d'avoir des mannequins?
C'est ça qu'on se demande.
C'est
produit
de boulangerie,
tu disais, boulangerie, toi, François, ce que tu as trouvé?
Oui, mais ce que j'ai trouvé, AMF est une compagnie qui fabrique du matériel de boulangerie. C'est l'autorité des marchés financiers ou sinon LCN a fait une erreur en taguant la personne en bas de l'écran.
Oui, c'est ça qu'on sait pas trop. Mais une boulangerie, pourquoi il y aurait des mannequins?
Moi, on a vu les critos, là. C'est AMF Canada, effectivement.
Ouais, exactement. Non. Et le corps a été donc... l'incident, c'était le 23 juillet. Il y a eu un incendie et il pensait que c'était un mannequin en flammes. Donc, le service de police et les pompiers l'ont déposé dans un conteneur à déchets. Et finalement, quelques temps plus tard, on a ouvert le conteneur à déchets pour se rendre compte finalement, la peau a l'air brûlée. C'est pas vraiment un mannequin, c'est une peau brûlée.
Parce qu'il manquait quelqu'un à l'appel. Puis la compagnie a dit, là, notre employé qui était à telle place, est rendu où, là?
Elle était dans le conteneur. Alors, c'est ça.
Ça a pris combien de temps? Entre l'incendie et la découverte du corps?
L'incendie, c'était le 23 juillet. Et là, ça sort ce matin dans les nouvelles. Donc, ça doit faire au moins 3-4 jours. À moins qu'il y ait eu un petit moment entre la découverte du corps et que ce soit médiatisé, là. Ça, je peux pas vous dire. Mais le corps a été retrouvé, selon moi, ce matin. Mais
c'est bien que ça la ramène pas en vie, là. Mais pour quelqu'un de sa famille,
c'est horrible.
Ça doit être terrible de penser que, pouf, on l'a pitché dans les déchets. C'est... Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien qui va récupérer ça, là, mais comment des premiers répondants, qui sont quand même aguerris, ont pu confondre un mannequin avec un être humain?
Et le feu, ça a été le 23 juillet, puis Radio-Canada s'est rendu sur les lieux la même journée pour demander au service de police, est-ce que vous savez où est la personne disparue? Puis le SPS a simplement dit, c'est un cas de disparition, on ne peut pas commenter davantage. Alors,
OK.
Ouais. Assez spécial.
Donc,
encore.
C'est peut-être bien, après s'être fait dire, coudonc, c'est une disparition ou ben, dont on l'a échappé?
Là, ils ont peut-être fait des recherches pour se rendre compte. Mais c'est un peu spécial. Moi, je me dis, comment est-ce qu'un spécialiste peut penser que quelqu'un, que, qu'une entreprise garde un mannequin comme ça chez eux?
Ben, j'aimerais ça qu'il y ait des pompiers qui nous parlent, parce que peut-être bien qu'effectivement, un corps humain brûlé, ça ressemble, tu sais, quand ça a une certaine rigidité, ça, peut-être bien que les pompiers qui nous écoutent comprennent très bien ce qui a dû arriver. Comprends-tu? C'est parce qu'on a de la misère à imaginer, là.
Nous étant pas soumis à ça, entre guillemets, régulièrement, t'sais, on n'est pas habilité à savoir si c'est une erreur. Puis quelqu'un qui le sait va être capable de nous dire oui ou non, la personne était dans le champ, puis ils l'ont échappé sur celle-là.
Il y a certainement une erreur, là. T'sais, ils l'ont échappé. Quand il manque un employé, puis que tu trouves pas le corps, puis que t'as mis un mannequin au vidange, je veux dire, oups!
Bon. C'est surtout que le feu était éteint au moment qu'ils sont arrivés, donc c'était pas la panique acheter un corps quelque part. Il y avait le temps d'observer les lieux, de regarder, même de mettre la personne sur une civière. Là, c'est comme si je veux vraiment. Peut-être que ça s'est pas du tout fait comme ça, mais moi, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'ils ont juste pas trop analysé le corps, puis qu'ils l'ont un peu comme garoché.
Ouais, mais tu sais, je repense là aux images qu'on voit de Pompéi, l'éruption du Vésuve et les corps qui ont été complètement carbonisés et enfermés dans une espèce de coque par la cendre. Mm-hmm. Bon, est-ce que c'est possible que effectivement, quand un corps brûle, parce que là, c'était pas seulement asphyxié, souvent les gens qui meurent des incendies meurent asphyxiés. Là, visiblement, le corps a brûlé. Est-ce que c'est possible que quand un corps brûle, il y a une espèce de rigidité qui s'installe de telle manière que tu comprennes pas que ce soit un corps humain?
Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des détails qui vont sortir. Je vais vous tenir au courant pendant l'émission parce que peut-être qu'on va se rendre compte de certains détails qui mettent les choses plus claires, parce qu'en ce moment, c'est un peu bizarre comme histoire.
Ou bien notre 25226 est en panne, ou bien on n'a pas de pompiers à l'écoute.
Bon. Ça se peut. Il y a peut-être un gros feu quelque part, puis ils sont tous là-bas. Là.
OK. Toi, François, je voudrais d'abord vous faire entendre, parce que hier, il y a eu la journée des joueurs autonomes, là, le repêchage des joueurs autonomes, je sais pas comment on appelle ça. Tous les trois, Anne-Sophie, François et moi, on est loin d'être des spécialistes du hockey. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Philippe Danault.
Moi aussi, avec sa pizza.
C'était un joueur qui n'était pas seulement un Canadien français de service, là. C'était quelqu'un qui avait du panache, qui avait une bonne influence, qui est un espèce de ciment pour l'équipe du Canadien de Montréal. Puis j'ai ben de la peine de voir que Bergevin, qui a l'air de jouer plus souvent au poker qu'à faire dans l'humain, a l'air de l'avoir échappé. En tout cas, moi, je trouve qu'il l'a échappé. Mm-hmm. Ce que je comprends, là, c'est que Danault, il demandait 5 ans... le Canadien offrait 5 ans, 25 millions. Danault a demandé 5 ans, 30 millions. Et Bergevin lui a juste pas donné de nouvelles. A juste pas répondu.
C'est une histoire d'un demi-million par année, quelque chose comme ça.
Ben, c'est quand même pas des pinottes.
Non, mais
tu sais, le fait de pas avoir répondu, là... C'est pour ça que je te dis, là, j'ai l'impression parfois que Bergevin, t'es un espèce de macho à l'ancienne. Je pense que je te donne, sinon, blablabla, puis mes couilles sont plus grosses que les tiennes, puis je pisse plus loin que toi, puis mieux. J'ai parfois l'impression qu'il est comme ça, Bergevin. Mm-hmm. Alors là, il a offert quelque chose, l'autre, il fait une contre-offre, il répond même pas. Le résultat, c'est que l'autre se sent humilié, se sent pas important. Puis finalement, il accepte une offre qui est de 33 millions pour 6 ans, si je comprends bien.
Ah, c'est énorme, là.
Oui, mais c'est assez semblable à ce que le Canadien lui avait offert.
Ouais, apparemment,
c'est juste
faisait...
que là-bas, il va être quelqu'un de respecté. Là-bas, quand il va écrire, l'autre va y répondre. Là-bas, il va se sentir important.
Ça joue pour beaucoup, hein? Le respect ressenti de la part de ton employeur. Puis on a beau dire que c'est des joueurs de hockey qui gagnent des millions par année, ça reste des êtres humains versus leur employeur.
Ouais.
Ben c'est ça qu'il a dit dans sa conférence de presse, Dano. Il était là, c'est de la grosse business, là, OK. Je me faisais achaler pour changer d'équipe. L'autre équipe me voulait tellement. Ouais. Puis je pense que lui, il est content. Il disait, je suis excité pour mon nouveau départ. Puis je comprends la tournure des jeunes qui prennent des responsabilités au centre. Je pense qu'il était peut-être tanné du Canadien lui-même.
Mais ma petite colère de petit amateur qui écoute juste les séries finales, là, elle vaut pas cher. Sauf que ce matin, à l'émission animée par Paul-Raphaël Charon, le Dupont le matin, pas de Dupont, là. Bon, on est toutes de même là, dans la station. On fait toutes des émissions, pas de... Donc, dans l'émission ce matin, Martin McGuire, qui couvre le Canadien depuis longtemps, jasait avec Paul-Raphaël. Et il a l'air d'avoir pas mal le même sentiment que moi, alors, ou que la plupart, que beaucoup de, d'amateurs, alors que lui, il est dedans, là, il est tombé dedans quand il était petit, puis il est resté dedans.
On parlait de Hoffman, on commence l'extrapolation.
On commence, oui, c'est vrai, parce que le Canadien, il a ramassé Hoffman, qui est quelqu'un qui s'est chicané dans toutes les équipes où il est passé.
Pas clean.
Ouais, il s'est chicané un peu partout, il a fait beaucoup d'équipes en peu de temps, etc.
C'est un joueur qui est pas très fiable, c'est un joueur qui va des fois tricher pour essayer de marquer des buts.
Un loafer, comme on disait.
Et, ouais, c'est ça. Et ça, le gars qui se tient l'autre bord de la rue quand tu joues dans la rue qui porte l'autre nom, là, tu sais.
Ouais.
Vous savez quoi? Quand on veut établir un système de valeurs de jeu collectif, puis qu'on va chercher un joueur comme ça, on se pose certaines questions. Dans le sens que où ça s'en va, ben on fait un gros compromis parce qu'on a besoin de jeux de puissance, on a besoin de temps en temps de marquer puis d'avoir un but de plus sur l'avantage numérique. Moi, je pense que c'est le compromis qu'on a fait avec lui. Tu sais, je pense que si Mike Hoffman triche puis que Price donne un but après, là, quand Price va le regarder, il va comprendre.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, il va comprendre que la culture dans cette équipe-là, c'est être conscient défensivement. Mais moi, mon point d'interrogation sur Hoffman, c'est si ta culture, c'est un pour tous pour un, puis le jeu pour l'équipe et tout ça, pourquoi tu laisses partir Philippe Dano?
Ah ouais?
Puis pourquoi tu vas chercher Hoffman? Ouais. Excusez, ça m'a fait du bien.
Pour avoir plus d'attaque.
Tu sais, parce qu'à un moment donné, là, si on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley avec cette attitude-là de un pour tous pour un, le gros sens collectif, de la responsabilité, se serrer les coudes autour de notre gardien et tout ça, je sais que ça peut pas marcher pendant 82 matchs, cette affaire-là, puis qu'il faut marquer un but de plus que l'adversaire, ça, je comprends tout ça. Mais si ton ADN d'équipe, là, c'est les Ravens de Baltimore, si ton ADN d'équipe, c'est les Cowboys de Dallas, il faut que tu t'assumes.
Alors, je trouvais le commentaire de Martin McGuire fort intéressant là-dessus. Et on va voir. Tu vois, jusqu'ici, là, les auditeurs ont l'air d'acheter la stratégie de Bergevin. OK? Comme je vous dis, moi, j'y connais pas grand-chose. L'offre de 5 millions n'était plus sur la table. Ben, c'est un peu ça, Bergevin. Je t'ai offert 5 millions, tu n'as pas pris tout de suite. Mange de la marde. Tu l'auras plus.
Ouais.
C'est des techniques
de négociation qu'on voit souvent aussi. L'offre est bonne pour un certain temps, puis une fois que l'offre le temps est terminé, ben c'est juste tout bad.
Ouais, mais je trouve que je suis pas sûr que dans le hockey, ils aient tout à fait réalisé que la jeune génération a besoin autant de tapes sur le dos que de millions dans le compte en banque. Je suis pas sûr qu'ils ont tout à fait réalisé ça. Tu peux pas juste obtenir des choses en payant à cette heure. Les jeunes, là, ils veulent... Ben, les jeunes, je parle, là, j'élargis en dehors du hockey, là. Ils veulent des vacances. Ils veulent des tapes dans le dos. Ils veulent se faire dire qu'ils sont bons. Ils veulent pas seulement remplir leur compte en banque. Regarde, le vieux discours des employeurs d'autrefois, c'était quand un jeune disait « Ouais, mais là, tu m'as pas dit que j'ai bien fait ça. » Regarde, je te le dis toutes les semaines dans ton chèque de paye. C'est ça la réponse.
Quand on cherchait
autrefois de l'approbation, on se faisait dire, t'as reçu ton chèque de paye? C'est ça.
Tu ne t'es pas renvoyé, donc on t'aime bien. C'est ça que ça voulait dire.
Mais la jeune génération a été formée dans des écoles où on les encourage, t'as fait ton possible, c'est ça qui compte, etc. Donc, ils sont habitués à marcher à la table dans le dos, puis au coup de pied dans le derrière.
Je ne sais pas si ça s'applique tant que ça au hockey professionnel, dans le sens où est-ce que tu restes quand même, en tant que joueur, tu le sais que t'es ta propre business. T'es une business au sein d'une business, puis que c'est tes performances qui vont faire en sorte que tu vas être engagé ou pas, puis c'est tes performances en général qui vont faire en sorte que tu vas être gardé ou pas. Peut-être qu'à deux offres égales, tu vas prendre l'endroit où tu vas avoir le plus de reconnaissance.
Souvent, là, on le dit, là, souvent, c'est ton attitude qui détermine ton altitude.
C'est vrai.
T'es embauché pour tes aptitudes, t'es congésié pour tes attitudes.
Ça fait beaucoup de mots qui riment, mais je te suis.
Oui, c'est ça. OK. On s'en reparle dans 3 ans pour Dano, me dit un auditeur. Bergevin n'était plus prêt à donner 5 millions par saison et je pense que c'était la bonne décision. C'est un shooter, Hoffman, et on en a besoin avec Canadien. Il faut scorer plus de buts, me dit un autre auditeur. Attends un peu, ça vieillit. Et si Dano était tanné d'avoir 25 micros après chaque partie, pratique partie, et se faire demander pourquoi ça fait 5 matchs que tu marques pas, puis la même question après 7, 8, 9 matchs, ça se peut aussi qu'il veut avoir la paix des médias sociaux. Ça aussi, c'est que d'avoir un seul francophone de service, ça met beaucoup de pression sur ce francophone.
Ça met beaucoup de pression sur le francophone, mais même à ça, à Montréal, c'est un marché de hockey qui est particulier. On tire vraiment tout le jus de tous les athlètes qu'on est capable d'aller chercher. Là.
Bergevin est conscient de la jeunesse. Un autre commentaire. La différence, c'est qu'il run une business. Oui, mais t'es pas obligé de la runner de façon insensible. Ce ne sont pas des amateurs de hockey, ce sont des fafans d'une équipe de hockey, me dit quelqu'un.
J'aime beaucoup Mayo, une histoire de photo. Wideman, une histoire de taxi. Hoffman, une histoire de femme. Dano, il mange sa pizza tranquille avec le sourire.
C'est pour ça qu'on l'aime, Dano.
Faut arrêter de prendre le monde avec des pincettes sans fin. Faut sortir du stade enfant et devenir adulte. Monsieur, le stade enfant, il dure longtemps, tétis de nos jours. Et comme employeur, si vous avez besoin d'employés, vous allez devoir les prendre avec des pincettes. Vous n'aurez pas le choix. C'est malheureux, il aurait aimé le garder, mais ils ont un chemin à faire, un plafond à respecter. Donc, la plupart des gens considèrent que c'est une bonne décision de la part de Bergevin.
Peut-être pour les grands fans de hockey qui connaissent bien ça, mais pour nous, Myriam, François, qui connaissent un peu moins le hockey, Dano, c'était comme notre symbole un peu Québec dans l'équipe.
Ben oui, parce
lui
que...
qui mangeait sa pizza, on l'aimait. Mais peut-être que vu qu'on connaît moins les stratégies...
Parce qu'il y avait 5-6 francophones dans le Lightning, mais il y en avait un seul capable de nous parler dans notre langue après un match. Ça aussi, peut-être qu'en multipliant les francophones, hier, il y en a ramassé 3, c'est ça?
Oui.
Bon, peut-être qu'en multipliant les francophones, il va répartir la pression médiatique un peu également sur ses porte-paroles.
Ouais.
Il va peut-être se donner une chance. En tout cas...
Ce qu'on a tendance à oublier des fois aussi, c'est que nous autres, on regarde ça extérieur, on regarde les chiffres, on regarde les performances. Mais d'un autre côté, Martin McGuire et les joueurs du Canadien, eux, le voient selon ce que le joueur qu'ils ont... le nouveau joueur, là, Hoffman, là, qu'est-ce qu'il va apporter comme ambiance au sein de l'équipe. Et ça, en tant que spectateur, nous, on le voit pas nécessairement. On le vit pas. Ouais. Tu sais, c'est l'autre côté de la médaille.
Il y a quel âge, Hoffman?
Oui.
Bon.
Ouais.
Bon. Parce que, tu sais, on apprend à tout âge et on oublie souvent qu'à 25 ans, là, ce sont des grands adolescents, là.
Oui.
Hoffman a 31 ans.
31 ans, il devrait commencer à avoir appris.
Pour ajouter des détails sur l'histoire de notre mannequin, là, j'ai trouvé d'autres informations comme quoi les employés de l'usine ont appelé les services policiers et pompiers et ont dit eux-mêmes, il a l'air d'avoir un mannequin en feu dans l'usine. Fait que les employés auraient dit ça à la base aussi.
Oh,
fait que ça a semé une confusion avec les pompiers et les policiers qui
donc
se sont
la personne qui aurait pris en feu?
Oui.
Wow!
Je veux pas dire oui, peut-être qu'il y avait un feu ailleurs et qu'elle aussi, mais moi, je pense qu'elle a pris en feu.
Fait que
c'est horrible.
L'employé de la place qui pensait que c'était ça.
Pensait que c'était un mannequin, lui.
Oh non!
Ce genre d'erreur-là, là, ça arrive pas pour une seule raison. C'est généralement une convergence de raison.
Une tempête parfaite.
C'est ça.
Puis là, t'as tellement de gens qui vont se mordre les doigts là aujourd'hui. Ben, il parlait entre autres d'aide psychologique pour toutes les personnes qui sont impliquées dans cette histoire-là, parce que veux pas, tu t'en veux d'avoir fait ce type d'erreur-là, que tu sois la personne qui a appelé ou le pompier qui a pris ça pour du cash.
Puis les employés ont pris des extincteurs pour éteindre le mannequin qui pensait que c'était un mannequin. Non. S'ils avaient su que c'était leur collègue, là. Excusez, ça me donne mal au cœur. C'est horrible.
Une drôle d'usine où tu penses que ce qui brûle est un mannequin. C'est bien. Notre qui font peut-être des vêtements pour les boulangers. Là,
ça, pis, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Là, mais...
On aura certainement plus de détails un peu plus tard là-dessus. De ton côté, François, qu'est-ce qui retient ton attention?
Moi, ce qui retient mon attention, c'est l'annonce de rajouter 215 postes de charge rapide pour les voitures électriques. C'est Stephen Guilbeault qui a fait une conférence de presse hier pour annoncer ça. On dépose, c'est 9,5 millions de dollars qui seront accordés à Hydro-Québec pour mettre en place les nouvelles bornes et la société d'État a déjà investi aussi 10 millions là-dedans. Donc ça
fait, j'ai calculé, 20 millions là, ça fait 93 000 dollars la borne.
Moi, à la base, j'ai pas tant de problèmes avec ça, sachant que tu vas rentabiliser à long terme tes bornes avec les paiements à l'utilisation.
Je suis pas sûr de ça.
C'est combien le paiement à l'utilisation?
Ça dépend des bornes. ça dépend ce qu'ils mettent en place, mais il y a des bornes qui fonctionnent à 4 $ la charge, il y a des bornes qui fonctionnent à 1 $ de l'heure. Il y a toutes sortes de bornes là.
Ça prend beaucoup d'auto électriques parce que 4 $ la charge, ça prend quasiment 23 000 autos qui doivent venir se charger. Mais ça en prend des autos électriques. Ça va prendre du temps à rembourser.
Ça, c'est juste pour rembourser le...
C'est 4 $ juste pour rembourser la borne. Puis là, t'as pas l'énergie en plus électrique qui est là-dedans. Là.
Non, moi, ce qui m'inquiète dans le développement du réseau, là, c'est qu'on a l'air de prendre pour acquis que c'est le bug principal à avoir des voitures électriques. Alors que le bug principal pour avoir une voiture électrique, c'est la capacité de faire ta recharge chez toi. Quand tu as une maison unifamiliale, tu peux facilement faire ta recharge chez toi. Aussitôt que tu vis en appartement, ça devient beaucoup plus compliqué. Que ce soit dans des condos ou que ce soit dans des appartements à logement. Parce que là, t'installes une borne, il faut que tu puisses repartir avec, mais ça... Tu n'as droit qu'à un seul financement pour avoir une borne. Tu as droit à une subvention. Je pense que le maximum, c'est 2000 $.
C'est l'affaire de même.
Bon. Si bien que à chaque fois que tu déménages, faut que tu installes un fil. Bon. La voiture vient avec un fil qui te permet de te brancher dans le 120. Ça prend entre 8 et 12 heures pour te charger. Mais le fil en question, là, moi, je m'étais renseigné chez Mitsubishi parce que j'en ai une voiture électrique hybride. Là. Mm-hmm. J'avais dit, oh, ben, on va en acheter un deuxième. Je vais le laisser chez mon chum. C'est 1500 $.
Non, c'est le pas fil. Donné.
Fait que tu laisses-tu un fil de 1500 $ à la vue dans Limoilou ou dans Saint-Sauveur?
Est-ce que tu peux installer ça n'importe où? Je pense à moi, là, je retourne à Montréal dans mon appart. Ils vont pas me laisser installer une borne avec un fil devant mon appart dans une rue super achalandée? Là.
Ben, c'est parce que la borne, là, elle te sert à te dépanner quand tu roules. Par exemple, je m'en vais au Saguenay, je pars avec, je vais dire n'importe quoi, une Bolt, je l'ai pas assez chargée, ou ben j'ai mis trop de chauffage, ou j'ai mis trop de climatisation, puis j'ai besoin de m'arrêter à l'étape. Je vais m'arrêter, je vais faire le plein, ça va me prendre quoi, une heure à peu près, pour récupérer suffisamment d'autonomie pour pouvoir repartir. D'abord, moi, perdre une heure en chemin, ça m'écœure. Deuxièmement, ces bornes-là servent en chemin. Ça peut pas régler ton problème de charge à domicile, parce que ça veut dire que toi, tu vas sortir de ta, tu vas arriver de travailler, tu vas te stationner sur une borne devant chez vous, tu vas faire le plein, ça va prendre 4 ou 5 heures, puis ensuite, tu vas devoir, au bout de 4 ou 5 heures, ressortir. T'es arrivé de travailler vers 19 heures le soir, ça veut dire qu'à 23 heures, tu vas ressortir, déplacer ta voiture pour libérer la borne.
Puis moi, j'aime pas trop ça. Il faut sortir après 23 heures la nuit.
C'est ça. Puis là, le suivant, qui attendait après la borne, lui, il va se brancher à 23 heures, puis à 3 heures du matin, il va sortir pour débrancher la borne.
Ça fonctionne pas. Là, pour les villes, ça fonctionne pas du tout en ce moment-là.
Elle est là, la difficulté actuellement, d'aller plus loin. Ceux qui ont des maisons unifamiliales, il n'y a pas de problème. Ils peuvent en avoir. Ils peuvent se charger. Puis en route, on se dépanne. Mais quand tu habites un immeuble à logement, c'est compliqué.
Pourquoi on pourrait pas marcher puis marcher de la gomme en même temps? Pourquoi on pourrait pas offrir des subventions aux gens qui veulent s'installer une borne à la maison ou subventionner les propriétaires de blocs qui veulent électrifier le sous-sol puis le stationnement pour les voitures et en même temps offrir des bornes de recharge supplémentaires? Parce que là, on parle d'installer des bornes de 400 volts. C'est pas une heure, là. Ça, à 400 volts, là, c'est un 20 minutes, une demi-heure pour...
Pas tant, c'est ça prend quand même un peu de temps. Là.
Mais 400 volts, c'est quand même beaucoup plus rapide que ta
C'est deux fois plus rapide. C'est deux fois plus rapide. Mais ça te prend quand même un peu de temps. Là. Il y a des endroits... Moi, ce qui m'inquiète dans le développement, là, c'est qu'il y a des endroits où ils sont rendus à 600 volts.
Dès l'année prochaine, il y a les 800 qui vont arriver.
Bon. C'est ça. On parlait de recharge par magnétisme. Mm-hmm. Donc, autrement dit, on est en train de développer un réseau qui risque d'être obsolète avant d'être rentable.
J'y crois plus ou moins ça, à l'obsolescence là-dessus, parce qu'il y a quand même, ça fait quand même 10 ans, 15 ans même que la Prius est sortie, là, où est-ce qu'on a le premier véhicule hybride. Oui, il y a du développement qui a été fait. Oui, on est rendu avec des voitures 100% électriques. Puis oui, il y a des améliorations au niveau des chargeurs. On parlait de 400, on est rendu à 800 volts. Ouais, okay. Puis oui, il va y avoir d'autres améliorations. Sauf que, de là à dire que ça serait désuet, moi, j'embarque un peu moins là-dedans.
Regarde, 400 volts, ça te prend une à deux heures pour charger.
OK.
OK. Moi, ma petite voiture hybride, là, quand je me connecte, ça me prend 4 heures pour avoir ma full charge. Mm. Mais moi, j'ai pas une grosse autonomie, là. J'ai 40, 50 kilomètres maximum.
Puis tu te charges quoi sur le 110?
Non, j'ai
une borne 220?
Une borne 30 ampères.
30 ampères. OK, 220.
OK. Oui, c'est un peu. Normalement, c'est 40 ampères, mais ça fait partie des difficultés. Dans un immeuble à logement de condo, chaque propriétaire peut installer sa borne, mais les boîtes électriques, les systèmes électriques de ces immeubles-là ne sont pas conçus pour ça. Donc, un jour, et si tu veux que chacun ait sa borne, ou qu'il y ait une borne par deux voitures, va falloir changer massivement tous les systèmes électriques. Comprends-tu?
Oui.
Alors, ça... là, la difficulté, c'est pas tant la borne de recharge en route actuellement. La difficulté, c'est d'aller rejoindre les gens qui vivent ailleurs que dans des maisons unifamiliales.
Surtout qu'il y a de moins en moins de maisons, puis que ça coûte un bras s'acheter une maison.
Bon. Ouais, deux choses, on est capable...
Secteur Saint-David, à Beauport, toutes les bornes de recharge se sont fait couper les fils durant le lockdown.
Ouais, ça, ah. Ça, du monde qui voulait absolument aller vendre le cuivre, là, ça, c'est une autre chose. Vois-tu, une Model T, une Model 3 de Tesla, on dit 400 volts, ça prend environ 33 minutes pour la charger.
C'est ça. Mais c'est Tesla. Tesla, actuellement, quand tu achètes une Tesla, tu n'as pas généralement la subvention pour l'achat de la voiture parce que la plupart des Tesla dépassent le 50 000 $ de valeur.
Oui, mais le point, c'est que 400 volts, ça charge rapidement.
Oui, mais c'est 50... Tu veux payer combien pour une voiture?
Oui, tu sais, à partir de 35-40 000, t'es capable d'avoir quelque chose de très, très bien quand même, là.
Non. En voiture électrique, là, tu vas tourner autour du plus... T'es plus proche du 40 000.
Même si t'as... Ouais, oui, bien...
Plus
35,
proche du
40
000.
Plus proche.
Mais t'auras pas une Tesla, là.
Non. Je parle de voiture électrique.
Et mais tu vas avoir une autonomie de 300 km.
Oui, mais ta charge... Si t'as une autonomie moins grande qu'une Tesla, ta charge à même voltage va prendre moins longtemps qu'une Tesla.
Non, pas forcément, parce que les bornes Tesla sont plus puissantes. C'est, quand tu te branches sur une borne Tesla, c'est beaucoup plus rapide.
Ça, je pourrais pas dire parce que je suis pas assez connaisseur là-dedans. Mais à quelque part, je me dis, on est capable certainement d'avoir de l'aide pour les gens qui veulent s'installer et de l'aide pour les gens qui veulent se déplacer.
Tu vois, j'ai une Niro hybride. Écoute quelqu'un, elle me dit quelqu'un, ça prend 5-6 heures sur le 110. Je suis en location de condo, on me facture 30 $ par mois. C'est ça. Les condos vont devoir se dire, OK, si vous vous branchez sur le 110, combien on va vous charger? Or, on estime qu'une charge coûte à peu près 1 $ en tarif domestique. C'est pour ça qu'à 4 piastres, les bornes d'Hydro-Québec, c'est 4 fois le coût de ta charge domestique.
Oui, mais c'est pour du dépannage.
Oui, mais du dépannage... Au Québec, là, 250 km, tu fais ça les deux doigts dans le nez, vite, là.
Mais tu fais ça combien de fois par année? Il y en a qui font ça régulièrement, mais je suis pas sûr que la majorité des gens font aussi souvent que ça des voyages à longue durée. Et si tu fais un voyage à longue durée, tu vas planifier ton voyage en conséquence.
Tu fais pas ça des dizaines de fois par année, mais les familles qui ont une voiture, OK? Tu vis en condo avec ta blonde, vous décidez d'avoir un char.
Oui.
Bon. Si tu achètes un char électrique, tu es limité en autonomie et tu n'as aucune capacité de traction, règle générale, sauf quelques modèles assez rares et très coûteux. Donc, tu choisis d'avoir une seule voiture et là, tu es limité en autonomie et tu oublies l'idée d'avoir un trailer, une roulotte, quoi que ce soit à traîner. Si tu as une maison unifamiliale et que tu choisis d'avoir deux voitures, ce qui est la plupart des cas des gens qui ont des voitures électriques, là tu as une voiture avec full autonomie, essence, capable de traîner, puis tu as une autre voiture qui est électrique. Mais ce que tu finances actuellement, ce sont des gens qui ont les moyens d'avoir deux voitures.
C'est vrai.
C'est ça que tu finances actuellement.
Mais tu sais, on est dans une période de transition aussi. Tu sais, on était tous pas vivants au moment où la voiture a fait son éruption puis qu'elle a commencé à remplacer le cheval. Mais je suis certain qu'il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais là, ça va coûter cher mettre une tank à gaz à l'étape. Là. On pourrait avoir du foin tout le long. »
Non, mais c'est pas pareil.
Puis il y a une autre chose qu'on a tendance à oublier.
Ce qu'on est en train de faire, surtout, et c'est ça qui me dérange dans l'annonce d'hier, c'est qu'on multiplie les bornes. Je comprends que ce soit utile. Mais à mon avis, ce qui limite l'achat de la voiture électrique actuellement, ce n'est pas la quantité de bornes. C'est pas ça qui limite. Il faut vraiment s'attaquer au problème de la borne dans un milieu avec des blocs appartements, des immeubles à condos, etc.
Il y a une chose, C'est le fédéral qui est responsable des transports, mais c'est le provincial qui est responsable de l'approvisionnement en électricité. Donc, est-ce que le fédéral pourrait pas subventionner les bornes et le provincial se pencher sur les conversions des lignes électriques chez les résidents? Tu sais, chacun peut faire sa part du travail. Mmh. Puis l'un n'est pas exclusif à l'autre non plus, là.
Depuis tantôt, vous parlez des immeubles à condos puis des blocs, mais moi, je trouve que c'est même pas ça le problème. C'est les appartements en ville.
Oui, ben c'est ça.
Tu regardes juste dans mon cas.
Est-ce que je parle de blocs, c'est des appartements en ville?
Non, mais c'est parce que moi, je parle. Oui, oui, mais les blocs, souvent, il y a des parkings, des fois, avec les blocs. Tu sais, dans le bloc, il y a un parking en bas. Mais moi, je parle d'appart en ville dans mon calme, là. Il y a même pas de parking souterrain. Les gens sont sur la rue.
Oui. Ben, il y a quelqu'un qui me dit que dans son coin, il y a une Tesla qui se branche effectivement sur une borne, mais qui est stationnée dans la rue.
Mais il y a des restrictions sûrement dans la rue.
Ben, c'est parce que tu peux pas toujours être sûr dans la rue que tu vas avoir ta place, là.
Puis la place, tu n'es pas réservée parce qu'il y a une borne.
C'est ça. Mais tu vois, il y a des gens qui me disent que leur Tesla Model 3 sont éligibles aux subventions gouvernementales parce qu'ils arrivent à les faire en bas de 50 000 $.
Ben, en fait, la Tesla Model 3 de base, elle est à 40 999. 44 900. En tout cas, une pièce en bas.
Ce qui montre que cette subvention-là fonctionne parce que ça a obligé les fabricants à faire des modèles qui se tiennent en bas du 50 000.
Quelqu'un qui écrit « L'avenir est à l'hydrogène, le plein de ma voiture en moins de 5 minutes ouais. ». Ça, c'est un autre gros débat, ça. Est-ce que, parce que au Québec, la voiture électrique, c'est une chose. Le Québec a une source d'énergie propre. Si t'en vas aux États-Unis, l'électricité au charbon, c'est un autre game. Mais l'hydrogène commence à prendre de l'ampleur un peu partout ailleurs dans
non,
le monde.
Non. C'est à Québec que ça se fait. L'hydrogène, là, actuellement, l'essai se fait avec des Mirai de Toyota, que le gouvernement a payé d'ailleurs un prix de fou pour essayer. Et il y a une ou deux stations-service d'hydrogène qui vont s'ouvrir. Le problème de l'hydrogène, c'est l'explosivité du carburant.
Puis, est-ce que c'est bien nocif pour la planète?
Zéro. C'est de l'eau.
Quand tu brûles,
c'est de la vapeur d'eau.
De l'eau, c'est H2O. Fait que chaque molécule d'hydrogène que tu brûles vient se combiner avec une molécule d'oxygène dans ton atmosphère, puis ça fait de la vapeur.
C'est pas tout à fait vrai ce que je dis. C'est zéro comme émission, mais c'est beaucoup de produits et de métaux rares pour faire les batteries, faire le matériel. Mais c'est pour ça que l'hydrogène est vu comme une solution, parce que l'électricité, là, l'hydroélectricité, au Québec, c'est de l'électricité. On a de l'électricité propre. Mais dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, là, il n'y a pas d'électricité propre. L'électricité se fait par des centrales thermiques, des centrales nucléaires, qui est quand même une forme d'électricité propre, mais dont on a comme appris à se méfier un peu, là. Le problème, c'est pour ça que l'hydrogène est en tête, c'est pour ça que Toyota, ils ont comme arrêté de travailler sur la voiture juste électrique. Ils font des voitures hybrides et électriques. Puis, ils travaillent beaucoup sur la voiture hydrogène.
Pourquoi le Québec ne deviendrait pas une terre de production d'hydrogène? Puis après ça, on exporte ça à l'extérieur du monde. Puis moi, pour avoir lancé cette idée-là, moi, je me garde 1% de commission.
Ouais. Tout ça pour dire qu'à 93 000 $ la borne, je me demande si on n'est pas en train d'investir dans quelque chose qui risque d'être désuet dans pas longtemps.
C'est la même guerre que VHS-Beta.
Oui, mais regarde, t'en trouves-tu encore des bêtas, toi?